Donc l'idée du terme anticolonialisme est venue comme une évidence. Et puis, la semaine dernière, je me suis rendu compte que ce terme-là n'était pas du tout ancien. Le terme en lui-même, il est très récent, donc ce n'est pas parce qu'il ne vient pas de l'époque de Comte, mais parce qu'il n'est pas fidèle à l'esprit des Comtes. Pourquoi ? Parce que dans anticolonialisme, il y a le mot anti, il y a l'idée d'une critique. Or, toute la pensée des Comtes, elle est tournée vers l'idée d'un dépassement de la critique. Je me suis aperçu que l'approche que j'avais adoptée était au fait l'approche critique que Comte avait récusée tout au long de sa philosophie. Donc, je me trouve en quelque sorte en porte-à-faux déjà par cette façon d'aborder la question du refus de Comte, de considérer que la mission de l'Occident pouvait se réduire à une mission de domination du reste de la planète. Approche critique que Comte récuse, approche qui est pour nous une approche presque évidente, c'est l'autocritique. Donc la colonisation, c'est évidemment quelque chose de mal, il faut tonner contre, pour employer une formule de Flaubert. Il y a en quelque sorte un renversement qui s'opère. De la même manière qu'on peut dire que le colonialisme consistait à nier tous les mérites des peuples autres que les peuples européens, l'anticolonialisme pourrait être compris comme une façon de nier tous les mérites qu'il y a eu chez les Occidentaux. Et il y a en quelque sorte dans cette façon d'aborder la question de la colonisation qui marque de l'esprit critique, qui consiste à dire non, qui consiste à renier notre passé et consiste à dire si cela avait pu ne pas être. Or justement, c'est le contraire de l'approche de Comte. Et d'une certaine manière, c'est comme si on répétait le phénomène des Lumières avec le Moyen-Âge, donc le Moyen-Âge et la barbarie, on n'en veut pas de ça. Le 19e siècle colonial, on n'en veut pas de ça. Et justement, il y a ce rapport au passé, un passé problématique, qui est très intéressant, parce que le passé problématique, disons, pour les hommes des Lumières, était le Moyen-Âge, l'autre passé problématique est ce passé colonial. Et donc, je m'aperçois que cette façon de parler, de dire « Comte est un anticolonialiste, donc il est quelqu'un de bien », eh bien, il y a une réduction qui n'est pas fidèle à la philosophie des Comtes. C'est comme si on pouvait dire que le 19e siècle, c'est le siècle des barbares, des colonisateurs impénitents, et le 20e siècle, en revanche, c'est celui d'un pluralisme radical, d'une Europe le pénitente, et de ce fait-là, acceptable. Donc, je me suis dit que dans l'approche qu'il y a à ce phénomène de la colonisation, de la nouvelle vague de colonisation européenne du 19e siècle, il fallait trouver un juste équilibre. Il ne s'agit pas d'ignorer, il ne s'agit pas de taire, c'est pas du tout l'approche de Comte. Il ne s'agit pas non plus d'essayer de justifier ni de réhabiliter. Pour Comte, par exemple, il y a ce qu'il appelle un crime occidental. La traite des Noirs fait partie des crimes occidentaux. Il serait prêt à parler du rapport qu'a eu l'Europe à l'Asie et à l'Afrique. Il serait prêt, par exemple, à parler de la guerre de l'opium comme un crime occidental. Ça, il ne fait aucun doute. Donc, il ne s'agit ni d'une négation, ni d'une justification. Il ne s'agit pas non plus d'une réduction, c'est-à-dire de réduire la réflexion à l'Occident à cette fatalité, c'est-à-dire il fallait que l'Occident devienne colonialiste. Il fallait que l'Occident devienne un empire mondial. S'il me semble qu'il y a une pertinence de cette réflexion de Comte pour nous aujourd'hui, c'est parce que elle nous invite à avoir ce qu'il appelle une approche organique de l'anticolonialisme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par organique? Donc, organique, dans le langage d'Auguste Comte, s'oppose à critique. C'est lié aussi à l'idée qu'il y a une complexité des phénomènes humains qui permet ce que Comte appelle la modificabilité. La sociologie repose sur le fait qu'il y a des lois des sociétés humaines, de la même manière qu'il y a des lois dans les phénomènes mathématiques, astronomiques, chimiques, biologiques. Il y a des lois dans les sociétés humaines. Il y a des lois du développement des sociétés humaines. Mais cela n'aboutit pas à un déterminisme strict. Il y a une complexité des phénomènes humains qui rend possible des marges de manœuvre. Et il me semble que s'il est pertinent encore de s'attarder sur le rapport qu'a eu Comte à ce renouveau de la colonisation, c'est parce qu'il nous montre que la constitution des empires coloniaux n'était pas une fatalité. Que ce qui nous semble être, en quelque sorte, l'émanation de l'Europe industrielle et savante du XIXe siècle, n'est pas forcément le fait de devenir une oligarchie mondiale. De ce fait, me semble-t-il, c'est ça mon hypothèse au fait, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de dénoncer la colonisation de manière impuissante, comme un phénomène contre lequel il n'y aurait rien eu à faire. Il me semble que tout l'intérêt de Comte et du point organique qu'il propose, c'est qu'il nous permet de répondre à la question « Qu'aurait-il fallu changer pour que cet engrenage-là ne se mette pas en route ?» C'est bien d'un engrenage qu'il s'agit. La colonisation est le résultat d'un système. Et c'est ce qui me semble très intéressant chez Comte, c'est qu'il permet de mettre en évidence les composantes de ces systèmes et justement quelles auraient été les possibilités dont on disposait pour justement ne pas venir à faire de l'Occident une puissance dominatrice. C'est ça le problème dont j'aimerais vous parler, c'est de voir comment être un anticolonialiste organique, donc comment dépasser la colonisation, et cela à partir d'une manière de repenser déjà le rapport de l'Occident à lui-même. Puisque ce qui est aussi en jeu, et d'ailleurs c'est le propos de mon travail de réflexion, ce qui est en jeu dans l'anticolonialisme, c'est le regard que l'on porte sur l'Occident. Dans l'anticolonialisme, d'un point de vue critique, l'Occident est conçu uniquement comme une puissance dominatrice. L'Occident ne pouvait qu'aboutir à devenir une puissance de domination. Or, il me semble que tout l'intérêt et la réflexion de Comte, c'est de montrer que le rôle de l'Occident est d'être une élite. Et c'est très intéressant puisqu'il y a toute une réflexion sur que veut dire être une élite. À quelles conditions des pays qui sont en position de force peuvent être une élite. Il y a aussi une interprétation de la colonisation, et c'est ça qui est très intéressant, comme une distraction, comme une perte de temps, nous dit-il, comme un refus de se confronter à la difficulté qui est celle de constituer l'Occident. La constitution de l'Occident, c'est ce qui a été sacrifié par la colonisation. C'est une idée très forte de Comte, c'est-à-dire la colonisation de l'Afrique et de l'Asie dans la deuxième moitié du XIXe siècle a empêché qu'on constitue l'Occident. Il aurait fallu faire l'inverse, donc. Cette primat de la réorganisation intérieure conduit à un rapport très nuancé à l'égard de l'Occident. C'est un point qu'on verra, c'est le refus de ce qu'il appelle l'imitation aveugle. Puisque un des éléments de la colonisation, c'est justement le transfert de modes de vie occidental ailleurs dans le monde. C'est une pratique que Comte rejette. Pourquoi ? Parce que justement, l'Occident n'est pas imitable. Et pourquoi il n'est pas imitable ? On verra ça plus loin. C'est parce qu'il y a quelque chose dans l'Occident qui n'est pas bon à imiter. Et ce qui n'est pas bon à imiter, c'est l'esprit. Il appelle l'esprit anarchique, il appelle aussi le progrès anarchique, il appelle aussi le goût des Occidentaux pour la révolution. Cela sonne très curé pour nous, puisqu'on se dit, mais justement, ce qu'on devrait exporter, c'est la révolution. C'est l'esprit révolutionnaire. Or, Comte a, à l'égard de la révolution, une position très ambivalente, très nuancée, très fine. Donc ma première partie consiste à l'appréciation que Comte fait de l'Occident. Je vais passer à une deuxième partie qui concerne les mesures, en quelque sorte, pratiques et théoriques de Comte à l'égard de la colonisation. On va voir qu'il y a différents types de mesures. Il y a des mesures pratiques, par exemple la constitution d'une gendarmerie occidentale destinée à éviter qu'il y ait du piratage chez les pays d'Afrique et d'Asie. Une sorte de force internationale faite pour maintenir la paix dans les mers et empêcher les invasions. Il y a aussi une position qui est basée sur une politique d'évolution. Donc il y a une phrase très connue, on la cite très souvent, il faut rendre l'Algérie aux Arabes. Et il y a toute une politique d'évolution qui est fondée sur une compréhension de ce que c'est que l'espèce humaine. Il y a finalement une incitation à la résistance armée, non seulement chez Comte, mais chez les positivistes. Voilà comment je vous propose donc d'envisager l'anticolonialisme chez Comte comme une réflexion sur l'Occident et comme une réflexion aussi sur les mesures pour combattre les dérives qui émanent de l'Occident. Par rapport au premier point, donc la conception de l'Occident, lorsque Comte dit « l'Occident est l'élite de l'humanité », c'est une formulation qui énonce à la fois un fait et à la fois une mission. Ça énonce un fait dans la mesure où, point de vue de relations internationales, la configuration mondiale au XIXe siècle est une configuration monopolaire. C'est-à-dire, disons, moi qui suis né en 1980, j'ai connu un monde où il y avait l'URSS, il y avait les États-Unis. Il y avait deux blocs. Un monde bipolaire. On pouvait jouer sur l'opposition entre les deux. Comte est né dans un monde où il y avait les pays européens, même s'ils ne regroupaient pas la majorité de la population, avaient une puissance matérielle telle qu'ils pouvaient l'emporter sur n'importe quelle force de la planète de cette époque. Et c'est un cas assez unique dans l'histoire. Donc c'est une situation de fait, donc il y a une supériorité matérielle. Cette supériorité matérielle est liée à un avancement dans les connaissances qu'il appelle positives, dans les connaissances qui concernent le savoir sur les lois naturelles, qui sont la base de toute la puissance technique et industrielle de l'Occident. C'est une situation de fait. Mais cette situation de fait suppose une mission, ce qui suppose un achèvement. Autrement dit, l'Occident fait partie de ce que Kant appelle les nations les plus avancées, mais ce n'est pas pour autant que l'Occident est à lui-même l'image de l'humanité. Il y a une nuance entre être les nations les plus avancées et être l'incarnation même de l'espèce humaine. Et justement, c'est sur ce décalage que Kant joue pour se dire il y a dans l'histoire occidentale des failles. Et pour voir les failles de l'Occident, il faut se concentrer sur ce qu'il appelle la réorganisation de l'Occident. Et un peu de contexte historique. Donc Kant, il naît en 1798, c'est un homme qui a été marqué par les guerres napoléoniennes. Et toute l'Europe de la première moitié du XIXe siècle est marquée par ce déchirement intérieur de l'Europe. Et le terme de réorganisation, de réorganiser l'Occident, c'est presque un lieu commun. Le texte de 1814, Plan de réorganisation de l'Europe, qui est un texte de Saint-Simon, cela énonce en quelque sorte le programme de Comte, sauf que, à la différence de Saint-Simon, qui n'est resté sur ce thème-là qu'en quelque sorte de 1814 à 1815, toute la carrière de Comte est orientée vers ça. Comment terminer la Révolution? Comment mettre un terme à ce qui a commencé en France et qui s'est répandu partout en Europe? Si il s'agit de mettre un terme, c'est parce que la Révolution a permis d'évacuer l'Ancien Régime, donc un régime fondé sur, comme le résume Comte, Dieu et le roi, mais il n'a pas permis de remplacer ça, de remplacer Dieu et le roi par quelque chose d'autre. Il y a donc, dans le rapport de Comte à l'Occident, une critique de cette notion de révolution dont il s'agit justement de se défaire. Et pour Comte, la réorganisation interne est quelque chose de tellement dispendieux, de tellement difficile, que justement, il conseillait ça dès ce premier texte. Nous ne pouvons penser les autres peuples de l'humanité qu'après nous avoir pensé nous-mêmes. Et donc, cela a une conséquence politique, c'est-à-dire nous ne pouvons agir sur les autres avant de les avoir pensés, donc il faut différer toute action, toute intervention. Donc, le premier, en quelque sorte, anticolonialiste de Comte, c'est il faut différer l'action sur les autres populations le temps qu'on arrive à nous penser nous-mêmes, à savoir vers où nous allons, et une fois que nous savons vers où nous allons, à y arriver. C'est une, en quelque sorte une politique d'abord d'abstention. Il faut s'abstenir d'intervenir, parce que tant que nous ne saurons pas où nous allons, nous ne pourrons pas être utiles, nous ne pourrons pas aider. Je vais vous montrer une autre image. Donc, ça, c'est l'image des drapeaux. C'est David qui m'a permis d'accéder à ce document. Et si vous regardez quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Lorsque je regarde un atlas un peu plus tard, une trentaine d'années plus tard, grosso modo, il y a un drapeau par pays. D'ailleurs, il y a une phrase de Bernanos, « Qu'est-ce que c'est la France ? C'est un drapeau. » Et là, vous voyez qu'il y a une multitude de drapeaux pour une seule pays. Donc, vous voyez que la France, on a plusieurs, bon, c'est drapeau et pavillon. Il y a des accolades. Et vous voyez qu'il y a différents types de drapeaux. Un drapeau pour demander un navire. Ce qui est très intéressant, c'est cette multiplicité de drapeaux à l'intérieur de ce qui, pour nous, c'est des unités nationales. Le Danemark, donc, vous voyez déjà, c'est très intéressant parce que cela explique que, premièrement, une unité sociale a besoin d'être symbolisée. Et un des éléments très intéressants pour réorganiser l'Occident, c'est de proposer des symboles occidentaux. Et donc, un des efforts pour réorganiser l'Occident, ça va être de proposer un drapeau occidental. Comte est un des premiers à avoir proposé un drapeau pour essayer de rallier les peuples occidentaux. Et cette idée de créer un drapeau, lorsque vous voyez cette diversité des drapeaux pour différentes circonstances, c'est là beaucoup moins absurde. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je me lève et je dis, bon, on va faire un drapeau pour l'Amérique latine, ça va sembler très bizarre, on va dire, mais vous voulez en faire une nation. D'ailleurs, l'élaboration du drapeau européen, c'est même pas un drapeau, c'est un logo européen, parce que le terme drapeau est tellement collé à l'idée des nations qu'il a été récusé. Pour nous, ça a l'air aberrant. Mais, et ça c'est de 1830, lorsque vous voyez ça, ça a l'air beaucoup moins bizarre. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez cette diversité des drapeaux, dans l'esprit systématique de Comte, vous voyez émerger l'idée, bon, et si on pouvait rassembler tout ça en un seul symbole? Mais comment faire? Donc, le drapeau que Comte propose pour l'Occident est un drapeau vert. Et c'est pour ça que les Brésiliens ont choisi le vert. Un drapeau vert, pourquoi vert? Oui, donc effectivement, il y a une connotation politique, oui. On n'est ni avec les communistes, ni avec les royalistes, ni avec le parti, le parti des milieux. Donc, c'est une couleur en quelque sorte politiquement libre. Et il y a aussi la connotation, donc il le dit, d'espérance. Dans un texte très curieux, il dit qu'à un moment donné, lors de la prise de la Bastille, le symbole de rassemblement était des feuilles. Donc apparemment, ils arrachaient des feuilles comme signe de rassemblement.
C'est ce qu'ils ont fait au Palais Royal, Camille Moulin.
Exactement. C'est une façon aussi de rendre hommage à cet héritage révolutionnaire, même si nous le dépassons, nous lui rendons hommage. Et donc, couleur politiquement neutre en France, éloge de la Révolution, puisque quand même l'an zéro de la nouvelle ère, c'est la Révolution française, et hommage aussi à l'Orient. Le vert est une couleur très importante dans les peuples de l'islam, et donc c'est une façon aussi de montrer que l'avenir de l'Occident est de s'effacer devant l'humanité, et que donc l'Occident est une main tendue à l'Orient. Tout ça avec cette idée qu'il faut élaborer des symboles occidentaux. Il a proposé aussi une pièce de monnaie occidentale, je ne rentre pas dans les détails. Alors ce qui est très intéressant, pour parler à nouveau de cet Occident qui ne se comprend pas comme un empire, mais qui se comprend comme république, puisque le nom que vous trouvez dans les textes des positivistes, c'est République occidentale. République par opposition à monarchie. République par opposition à empire. C'est les deux modèles qu'il rejette. Donc cette République occidentale se veut plurielle, et dans la bannière que vous pouvez voir si vous allez à la maison d'Auguste Comte, vous verrez qu'il y a le drapeau vert avec en liséré les couleurs de la France, en bleu, blanc, rouge. C'est ça, en quelque sorte, la façon qu'il avait de concilier l'unité avec la diversité. Occidentaux, on a cette matrice commune, cet héritage historique commun, mais chacun se l'approprie d'une différente façon. Et la manière de la symboliser, c'est justement de mettre ces différentes couleurs. Donc, ce premier versant de l'anticolonialisme est une conception de l'Occident en tant que, premièrement, société à réorganiser, société qui demande à être dotée de symboles communs, d'une doctrine commune, qui va être le positivisme, et d'une politique commune. Je ne vais pas m'attarder sur ce point, je vais aborder donc l'autre point, c'est le rapport direct de Comte à la colonisation. Encore un point de détail très important pour comprendre la façon de penser des Comte. Si vous regardez la dernière ligne de drapeau, vous voyez qu'il y a États-Unis, bien sûr, vous voyez Haïti, Guatemala, Nouvelle-Grenade, c'était le nom de la Colombie, l'Équateur, le Venezuela, Valparaíso, Chili, Brésil, Bolivie, Paraguay, Buenos Aires, pas l'Argentine, curieux, Pérou. Bah, c'est les pays qui viennent d'acquérir leur indépendance il y a une dizaine d'années. C'est 1837. En 1820, ces pays sont devenus indépendants et ils ont commencé à se doter des symboles. Juste avant cela, c'était l'indépendance états-unienne. Pour Comte, le système colonial est un système en quelque sorte qui renvoie au passé, pas à l'avenir. C'est quelque chose qu'on a du mal à dire aujourd'hui, mais Comte, ce qu'il voyait lorsqu'il écrit en quelque sorte entre 1830 et 1856, que dire sa carrière, il ne voyait pas la réussite du système colonial. Il l'avait vu en quelque sorte son effondrement. C'est confronté à cet effondrement qu'il voit se mettre en place l'expansion de la France en Algérie et les différentes expansions européennes. C'est un élément de contexte important pour s'apercevoir à quel point il n'y avait pas un facteur d'évidence. Il n'y avait pas un caractère inéluctable dans ce renouveau, et c'est pour ça que j'emploie le terme, dans ce renouveau de la colonisation. Donc je vais passer à mon deuxième point, c'est-à-dire à voir quelles sont les positions de Comte directement à l'encontre de la colonisation. La première chose, c'est, comme je l'ai souligné, étant si on conçoit que l'Occident est traversé par 30 siècles de révolution, puisque c'est ça qu'il se dit, grosso modo, depuis les Grecs jusqu'à 1815, on est en révolution. Si l'on envisage que le but de l'Occident, c'est de se régénérer, c'est de cesser d'être révolutionnaire, alors on imagine bien que pour Comte, l'Occident ne peut pas s'exporter tel quel. Il y a toute une critique de tentatives pour exporter l'Occident. Qu'est-ce qu'il appelle exporter l'Occident? Par exemple, exporter le christianisme. Toutes les sociétés de philanthropie anglaise qui allaient, par exemple, au Japon pour dire « mais adoptez notre religion, voyez tous les progrès que ça a apporté en Occident ». Eh bien, les positivistes sont farouchement contre. Toutes les tentatives pour exporter le système parlementaire. Vous êtes en train d'exporter des choses provisoires. L'Occident est en train de se déchristianiser et vous exportez le christianisme. Ils ne sont pas crédibles, voyons. D'ailleurs, c'est l'argument même des positivistes. On ne peut pas exporter quelque chose qui est ancré chez nous. Même chose par rapport à certaines pratiques de développement industriel. On ne peut pas exporter un système industriel qui provoque des crises telles qu'il est. Donc il y a toute une méfiance à l'égard de ce qu'il appelle des transpositions aveugles de l'Occident, imitation aveugle. Je profite de cette critique du philanthropisme anglais à vocation chrétienne pour dire que pour Comte, la régénération de l'Occident passe justement par un dépassement et un hommage à la chrétienté. L'Occident a été chrétien, c'est vrai, mais l'Occident ne peut plus se définir comme chrétienté. C'est justement un des symboles forts dans ce drapeau vert, c'est que, étant donné que l'Occident ne se définit pas comme chrétienté, il faut qu'on fasse des gestes à l'égard des autres monothéismes. Je vais vous montrer l'autre image. Donc là, vous avez une vue de l'Europe, dans son état actuel en 1837. Alors, très intéressant, puisque vous voyez que l'Europe, là où il y a de la couleur, ça commence grosso modo dans la péninsule ibérique, et que cela va là jusqu'où il n'y a plus de couleur. avant la Sibérie. C'est très intéressant puisque les gens qui faisaient les cartes, à l'époque, ils avaient le même problème. Où est-ce qu'on arrête l'Europe? Un des points qui est très important pour Comte, et c'est pour ça qu'il dit Occident et pas Europe, c'est parce que Occident, c'est une réalité sociologique. L'Europe est une réalité géographique, l'Occident est une réalité sociologique, l'Amérique, comme il dit, l'Amérique anglaise, fait partie de l'Occident. L'Amérique espagnole, c'est comme ça qu'il appelle l'Amérique latine, fait partie de l'Occident. La Russie, la question se pose, à cause justement du poids si important qu'a le christianisme dans ce système. Donc, il ne l'inclut pas. Ça fait partie de l'Europe et ce n'est pas l'Occident. Le fait que l'Occident soit défini sociologiquement, c'est une quelque sorte une justification des imitations. C'est-à-dire, c'est parce que justement être occidental, ce n'est pas appartenir à un endroit, qu'on peut comprendre qu'on veut imiter l'Occident. Donc, il y a deux présupposés. Disons, pour pouvoir apprendre de l'Occident, Comte met deux conditions. La première condition, c'est de concevoir l'Occident régénéré, c'est-à-dire, que reste-t-il de l'Occident si on enlève la Révolution? C'est ça la question qu'on se pose. Et c'est une question qui reste valable. C'est-à-dire, si on enlève l'esprit critique dont j'ai parlé, que reste-t-il? Les réponses peuvent être diverses. Mais ce qui est intéressant, c'est la question. Et Comte a essayé de s'imaginer ce que pouvait être un Occident si on mettait entre parenthèses l'esprit critique et l'esprit absolu. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est il faut rendre justice au peuple à qui on a affaire. Je vais prendre un exemple. Si je suis le Japon et je me rends compte que j'ai intérêt à imiter l'industrie occidentale pour assurer mon indépendance, l'idée des Comte, c'est il faut que tout apprentissage s'enracine dans les traditions locales, en quelque sorte. Le savoir occidental, ce n'est pas en quelque sorte aux autres peuples de s'adapter au savoir scientifique. Il faut que le savoir scientifique soit adapté aux autres peuples. Et il essaye de faire donner des exemples de cela, plus ou moins pertinents, mais ce qui est intéressant, c'est la tentative. Un exemple qu'il donne dans une lettre, il dit, étant donné qu'il y a du polythéisme en Inde, eh bien, on pourrait par exemple essayer de faire que les conceptions positives selon lesquelles il y a le milieu inorganique, le domaine organique et le domaine social, eh bien, on pourrait essayer de faire que cette trilogie s'adapte à certaines divinités indiennes. Ça pourrait permettre qu'ils assimilent ces notions scientifiques. À chaque fois, tout l'effort pour éviter l'imitation et pour donc éviter donc l'esprit de la colonisation, qui est un esprit de calque, pour Comte, c'est un esprit de l'absolu, c'est-à-dire on transvase quelque chose qui était en Occident ailleurs, c'est essayer de trouver des équivalents. Essayez de traduire, en fait. Là, je vais vous faire circuler une mauvaise reproduction d'une petite feuille qui se trouve à la maison d'Auguste Comte. Une feuille volante qui arrive un jour de la fête de mort. Le culte de mort est très important dans la politique positive, sachant que les morts dont il est question, c'est pas seulement les morts occidentaux, c'est l'ensemble de morts de l'humanité. Vous allez voir, en haut, il y a un titre.
Alors, read before the meeting of Indian positivists held in Calcutta on the positivist Mahalaya. Au Festival of All the Dead. Ça donne donc un adresse, donc c'est un discours, prononcé à l'occasion de la réunion des positivistes indiens, qui s'est tenue à Calcutta, à l'occasion du Mahalaya positiviste.
Exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est ce terme de Mahalaya. Bon, moi, je ne suis pas du tout versé dans les traditions locales, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont trouvé un point de convergence. Et cette Mahalaya, apparemment, dans cette partie de l'Inde, c'est cette fête de mort. Et ça a été fait à l'initiative d'un Indien. Et c'est ça qui est intéressant. C'est cette façon-là que Comte et que les positivistes conçoivent l'apprentissage, l'influence occidentale, comme appropriation. Alors, je vais citer quelques aspects pour pouvoir céder la parole. Donc, pour Comte, ça ne fait absolument pas sens de se dire « on va faire comme les Romains, on va civiliser en conquérant ». Les Romains, ils avaient bien des armes, ils ont bien apporté la culture en Gaule. Donc nous, on va faire pareil, on va être comme les Romains, on va aller avec nos armées et on va civiliser. Comte va dire, mais l'analogie ne tient pas la route. Non seulement parce que nous, on n'est pas des Romains, mais parce que le Romain, c'était une société militaire et que nous, on est société industrielle. Soit dit en passant, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la colonisation qui a été faite par la Russie, parce que la Russie a été aussi un gros colonisateur, a été beaucoup moins mal perçue que la colonisation anglaise, par exemple. Les Russes arrivaient en quelque sorte à cheval, et ils arrivaient de la même manière que le pays qu'ils conquéraient. Ils arrivaient à cheval, il y avait une des pratiques d'intégration des troupes locales. Et très curieusement, ce n'est pas tous les jours qu'on parle de la colonisation russe. Pourtant, elle était bien là. Et d'ailleurs, le positif de le souligner, c'est que la Russie reste encore un état militaire. Et donc, elle va chez des peuples pour qui encore la guerre est une forme d'économie. Il y a des convergences. Mais lorsqu'un peuple qui est centré sur l'industrie imite des modes de vie militaires, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui coince. Le positivisme est un rapport à l'histoire, mais un rapport à l'histoire nuancé, un rapport à l'histoire qui essaye justement de dépasser les répétitions. Je vais parler de deux points encore. Je ne veux pas m'attarder sur l'idée de cette marine occidentale, qui est une idée très intéressante de Kant. Une marine occidentale faite pour assurer la police des mers et protéger les peuples du piratage. Je vais parler d'un texte qui n'est pas de Kant, mais qui est d'un disciple très proche de Kant. Kant est donc quelqu'un qui a demandé la dévolution de l'Algérie aux Arabes, et quelqu'un qui a incité, en quelque sorte, il a dit « si les Français ne veulent pas rendre l'Algérie, eh bien que les Arabes se révoltent et qu'ils nous chassent ». Et je vais finir par ce texte, parce que je trouve que c'est un document très curieux. Alors, il s'agit d'une lettre adressée par un petit noyau de fidèles positivistes à un ambassadeur japonais. Donc, il y a l'ambassadeur du Japon qui se rend en Angleterre, et les positivistes lui écrivent une lettre. La personne s'appelle Richard Congreve, ça s'appelle « Adresse à l'ambassadeur japonais ». C'est un texte qui date de 1874.
« We well armed and well disciplined is, we regret to say, the first requisite for an eastern power in presence of the western world as at present constituted. » Alors, être bien armé et bien discipliné est, j'aurais pu dire, le premier requisite, la première exigence.
La première nécessité.
Une puissance orientale en présence du monde occidental tel qu'il est constitué.
Être bien armé et bien discipliné. Ils ont bien compris. C'est ce que je vous dis, et donc et je vais finir par là. L'anticolonialisme de Kant est nourri par un profond occidentalisme et par ce qu'il appelle un patriotisme modéré. C'est-à-dire, un patriote modéré est quelqu'un qui est prêt à défendre sa patrie et quelqu'un qui est heureux lorsque les autres défendent leur patrie. Il me semble qu'il y a là cette exigence de réciprocité qui traverse toute la doctrine de Kant et qui fait partie de son caractère organique. Qui dit organique dit cohérent aussi. Il y a une cohérence à l'intérieur de ces différents éléments et on ne peut pas présenter les relations internationales d'un point de vue purement asymétrique. C'est-à-dire, si on est heureux, si la France célèbre l'indépendance qu'il a obtenue à l'égard des puissances étrangères, eh bien, il faut aussi s'attendre à ce que les autres souhaitent d'être indépendants à l'égard des puissances étrangères. Et cela n'est pas seulement un souhait, et c'est par là que j'aimerais finir, cela dépend d'une compréhension de ce que c'est que l'humanité. L'humanité, nous dit Kant, l'humanité et la société, pour le coup, il y a une homogénéité entre les deux, l'humanité est un organisme composé d'organes indépendants. Cette idée de ne pas reconnaître l'indépendance d'un peuple, non seulement on fait mal à l'opprimé, non seulement l'oppresseur va finir par se casser les dents, mais c'est l'humanité en quelque sorte qui finit par perdre. Ce qui est en jeu à la fin, dans cette réflexion, c'est bel et bien comment unir l'humanité, comment en faire pour que l'humanité soit vraiment le véritable objectif politique, et comment faire en quelque sorte pour parvenir à ce propos qui est celui de Kant, à s'effacer devant l'humanité. Il y a cette idée que l'Occident ne peut briller qu'en s'effaçant. Et au moment où il va s'effacer, il va justement réussir à se répandre partout, mais pas à répandre ce qui lui est absolument propre, à savoir son idiosyncrasie révolutionnaire, mais quelque chose qui est commun à tous les peuples de la planète, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un développement technique et la possibilité qu'on aide les lois de la nature. Voilà donc en quoi, me semble-t-il, Kant permet une approche organique de cet anticolonialisme et pas seulement une approche purement qui est basée sur la dénonciation simple. Il essaye de nous montrer des pistes pour comprendre comment sortir de ce système.
Bravo. Bon, on va faire circuler la parole, hein, comme on dit. Voilà.
Comment ça a été perçu ?
Kant, il a été suivi par une minorité de disciples. Il y a une idée chez Kant, c'est que si on veut penser de manière générale, il faut avoir des sentiments généreux. Je viens à cela parce qu'il se dit qu'il doit y avoir une générosité dans le rapport aux autres. Ferrier, justement, parle de, il faut que les races, je pense que c'est le terme des races, les races fortes ont un devoir d'aller coloniser les races faibles, inférieures, pardon. Or, Kant, il aurait dit, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, c'est vrai que il faut la générosité, mais cette générosité doit être accompagnée de lumière de l'esprit. La phrase de Kant, c'est, l'esprit doit être le ministre du cœur. Ce que Kant aurait dit à Ferrier, c'est, ce que tu comprends pas, c'est que le développement ne peut se faire qu'en partant de la spontanéité des peuples. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à se développer. Et cela prend du temps, mais c'est ainsi. Donc, il a été mal interprété. Il a été mal entendu. C'est peut-être pire, c'est-à-dire pire peut-être que ne pas être entendu, c'est être mal entendu. On a dit, on va coloniser pour apporter les sciences, on va coloniser pour apporter la technique. outre le fait qu'il n'y a pas une influence directe, il a été mal entendu. Bon, ça c'est la première chose. Par rapport aux disciples anglais, ça a été évidemment mal perçu. Ils ont été traités des traîtres à leur patrie. Ils ont été minorisés, pour employer un verbe barbare. Ils ont été mis à l'écart. Les congrives qui étaient profs, eh bien, ses élèves, ils voulaient plus suivre ses cours. On ne va pas aller chez quelqu'un qui est presque à deux pas d'être traître à sa patrie. Et ce qui est très curieux, c'est que les positivistes se revendiquent comme patriotes. Ils disent « Notre façon d'aimer l'Angleterre, c'est de justement ne pas accepter qu'elle se comporte comme une pire, comme un voyou. » Donc, malentendu, de manière générale, même s'il n'y a pas de rapport, et une réception très très négative.
Donc, ils ne sont pas forcément reconnaisseurs de comptes. Ces écrits, ça se trouve où? Et est-ce que les contemporains la lisent?
Les textes qui parlent contre la colonisation, il y en a partout. Mais dans la dernière partie de son œuvre, il y a plusieurs passages où il dit « Il faut que la France rende l'Algérie aux Arabes ». Et même, il a mis ça dans ce qu'il considérait son opuscule propagateur, le catéchisme positiviste qu'il croyait qu'il allait être un succès. Bon, ça n'a pas été un succès, mais c'est très emblématique que dans le livre, dans les propagandes, ils mettent des propos comme ça. Ça, c'est la première chose. Après, Comte est un grand épistolaire, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. De ce point de vue-là, il voulait se comparer à saint Paul. La comparaison peut faire sourire, mais cela veut dire la mission qu'il s'accordait, ça veut dire le sérieux avec lequel il écrivait ce lettre. Une des faiblesses, pour l'instant, des études comtiennes, c'est qu'ils ont négligé les lettres de Comte. C'est que de l'émotion, ce n'est pas assez sérieux. Il y a tout un travail de Comte épistolaire où ils disent il y a des petits traités. Donc on trouve des petits traités sur des événements internationaux. Ensuite, les disciples de Comte, parce que Comte, même s'il était quelqu'un de très sûr de lui-même, il confiait des tâches à ses disciples. Et il se dit, c'est pas à moi d'aller critiquer l'Angleterre. C'est aux Anglais de faire ça. C'est très intéressant. C'est que, même s'il se considérait grand pontife de l'humanité, il ne se croyait pas autorisé à donner des leçons. S'il faut que quelqu'un donne des leçons aux Anglais, bah, il faut que ce soit un Anglais. C'est la première chose. C'est-à-dire, il faut que ça vienne de l'intérieur. Ce que je viens de dire par rapport à la spontanéité. S'il faut que les Japonais apprennent la science, et ce n'est pas à nous d'apporter les machines, c'est d'abord à eux d'apprendre les mathématiques, d'apprendre la physique.
Malheureusement, ils ont aussi absorbé le côté négatif, le côté positif.
Ils ont absorbé, et vous savez, il y a beaucoup d'hypothèses. Une des hypothèses, c'est que c'est par mimétisme qu'ils ont fait ça. C'est-à-dire, si on leur avait proposé des mots, si on leur avait proposé autre chose, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner. Une des choses qui est très intéressante, c'est que il y a à l'époque des îles Ioniennes. Elles ont été conquises par l'Angleterre. Alors, il y a ce pavillon des îles Ioniennes. C'est très intéressant. Vous voyez qu'il y a le drapeau de l'Angleterre, parce que c'était territoire anglais. Et justement, Congreve disait, bon, Comte était un fervent, donc il aurait demandé la dévolution de l'Algérie aux Arabes, mais il est un fervent partisan de la dévolution de Gibraltar à l'Espagne. Et un des arguments, c'est, mais non, on ne peut pas rendre ces territoires parce qu'il y va de notre sécurité nationale. C'est très souvent l'argument de la sécurité nationale qui est invoqué. Et Congreve le dit, mais attendez, vous avez bien rendu les îles Ioniennes. Les îles Ioniennes, en 1837, étaient possession anglaise. En 1863, devient possession grecque. Vous les avez gardés pour des raisons militaires, vous les avez cédés pour d'autres raisons. Et cet argument de la générosité, soyez généreux, vous ne faites qu'anticiper. Une des choses qui m'a le plus étonné, c'est quelle leçon on tire de la décolonisation? Combien de vies, combien d'efforts, combien d'argent? On aurait pu dépenser autrement si on avait anticipé. On pourrait dire les mentalités n'étaient pas prêtes. Bon, il y a cette question de la générosité en politique. Et pour Comte, un élément important dans la politique réaliste, qui est le schéma international basé sur le calcul d'intérêt, la générosité n'a pas de place. Mais il y a quelque chose à quoi Comte répondrait, c'est que les rapports internationaux ne sont pas basés sur l'égoïsme. Les rapports sociaux ne sont pas basés sur l'égoïsme. Il y a toujours un altruisme naturel dans l'espèce humaine. Et cet altruisme-là est aussi efficace politiquement que l'égoïsme. Ou pour les dire autrement, dans des termes qui ne sont pas du tout de Comte, on n'a jamais vu la haine vaincre la haine. Lui, il le dit en d'autres termes, il dit amour universel. Pour nous, amour universel, c'est plus parlant, ça fait gnognon, ça fait romantique douceâtre. Mais ce qui est en jeu, c'est ça. Quelle place a la générosité dans les relations internationales?
L'analyse de Comte est très subtile, très philosophique, en fin de compte. Est-ce qu'il y a chez lui quelque chose qui serait une sorte d'écho? Est-ce que nous pouvons dire éventuellement de la colonisation? À savoir que c'est une action violente qui fait des morts, mise au service d'intérêts financiers, avec pour alibi le fait d'aller répandre la bonne parole.
Il y a un événement qui a lieu du vivant de Comte, c'est la première guerre de l'opium. Il n'a pas de mots assez durs pour exprimer sa répugnance. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est la guerre de l'opium. Non, pour résumer de manière très brutale, les colonies anglaises en Inde sont déficitaires par rapport à la Chine. Pour essayer de rétablir la balance commerciale, ils ont un produit, mais qui est interdit en Chine, c'est l'opium. Donc les Anglais vont faire la guerre pour que les Chinois ouvrent leurs ports pour vendre un poison qu'ils interdisent chez eux. Là, le problème de la guerre de l'opium, c'est qu'il n'y a aucune justification qui puisse venir la couvrir. En revanche, par rapport à l'idée qu'on puisse répandre la culture par les armes, compte une analyse très modérée, d'être très nuancée. Se dit, lorsqu'on est dans une société militaire, c'est-à-dire lorsque Rome a fait des conquêtes, elle conquérait des peuples militaires, ça faisait sens. C'était la façon pour pacifier. Mais en revanche, lorsqu'on est avec un peuple industriel comme nous, et qu'on essaye de répandre la culture comme ça, ça ne pourra jamais marcher. Et c'est là que vient une notion très importante, capitale. C'est la distinction entre le pouvoir spirituel, qui est le pouvoir basé sur éducation et autorité, et le pouvoir temporel, qui est le pouvoir basé sur la force. Pour compte, le rôle de l'Occident est d'être un pouvoir spirituel. Surtout, un pouvoir spirituel, s'il se dit qu'il va y avoir un pouvoir temporel, à savoir ce système militaire, cette marine occidentale qui va empêcher. Mais il s'agit du point de vue temporel, à savoir du point de vue des rapports de force, c'est des opérations d'empêchement.
C'est
le matériel.
C'est le fondement de l'ordre.
Il faut un ordre matériel. Un ordre matériel qui s'applique d'abord aux Occidentaux, puisque les principaux facteurs de trouble sont les Occidentaux. Ils parlent parfois de la piraterie malaise, mais les principaux troublions, c'est les Occidentaux. Une fois qu'il y a ce facteur d'ordre, il y a la diffusion des lumières du savoir occidental. Mais pour cela, compte à une confiance énorme dans les lumières de la raison, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de forcer quelqu'un pour apprendre les maths. Il n'y a pas besoin de forcer quelqu'un pour lui apprendre le rudiment de la chimie. Non seulement ça ne va pas marcher, le processus pédagogique demande l'envie de l'autre de savoir. Et les autres ont toujours envie de savoir. Cette distinction entre spirituel et temporel est capitale parce qu'au fait, ce que vous dites là, c'est ce qu'il critique, c'est on va mélanger les deux. C'est ce que fait la puissance coloniale française. On envoie un contingent de professeurs à côté d'un contingent armé. Ou, pour citer le cas de la compagnie anglaise des Andes orientales, on envoie des prédicateurs, mais à côté, on envoie toute une armée, des canons et des sabres. Et... Donc, cette confusion entre le temporel et le spirituel est un problème capital. Pour compte, est une des difficultés, justement, à surmonter.
Est-ce qu'il y a un élément déclencheur ? Est-ce que c'est une pensée qui se construit tout doucement et qui va avec sa pensée philosophique ? Ou est-ce qu'il y a des événements politiques qui font réagir ? Ce qu'on peut voir peut-être, justement...
Ben, alors, il y a deux choses. Il aime citer une phrase d'Alfred de Vigny qui dit « Qu'est-ce qu'une grande vie ? C'est une pensée de jeunesse réalisée à l'âge mûr. » Il y a un des exemples qu'il cite dans le catéchisme, c'est qu'il dit « Au temps de Napoléon, moi j'étais fervent partisan des Espagnols. »
Il était élève donc, au lycée Montpellier, et en pleine classe, lorsqu'on est venu annoncer « Les Français sont chassés d'Espagne », il est
appelé. Il y a une continuité, mais il y a un élément... qu'on pourrait appeler les manques déclencheurs, c'est que Comte croyait que là où il aurait un succès retentissant, c'est dans le domaine de relations internationales. Il se dit, le positivisme a une politique internationale intelligente, généreuse, et c'est là qu'on va avoir du succès. Or, les seules personnes qui se sont intéressées à la politique internationale d'Auguste Comte, mis à part les disciples les plus proches, c'est peut-être Masaryk, en Tchécoslovaquie, qui était un lecteur deuxième compte. On dit deuxième compte pour dire le compte du système, en fait. Il y a un premier compte qui est le compte du cours de philosophie positive et un deuxième compte qui est le cours du politique positif. Chez Masaryk, j'avais trouvé dans un livre qui s'appelle La Nouvelle Europe, c'est l'Europe centrale, hein, c'est une manière de la pensée qui ressemble énormément à celle de Comte. Mais sinon, il n'y a pas eu de suite. Est-ce que c'est le fait qu'il c'est tellement cohérent que du coup, ça ne permet pas de découvrir les incohérences dans lesquelles nous nous trouvons? Ce qui est une de faiblesse, peut-être. Donc, il y a cette idée aussi qu'il croyait que le temps était venu pour propager la doctrine et que donc, il va s'intéresser à des cas pratiques. Il y a un cas pratique très connu, c'est la guerre des Crimées. À l'époque de Comte, c'était déjà tout un problème, la guerre des Crimées, où il a une opposition très intéressante puisqu'il est très nuancé. Il dit, je suis pour l'intervention en Crimée tant qu'elle reste dans l'espace maritime, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de débarquement. Mais à partir du moment où il y a débarquement et donc prise territoriale, je suis contre. Il y a un examen très nuancé. Du fait qu'il est nuancé, ben justement, cela se prête mal à diffuser de manière massive.
Le terme générosité me pose des problèmes. Il l'utilisait beaucoup, ce terme, parce que générosité, c'est une question de rapport, pour moi, des rapports interindividuels et au niveau de nation. Pour moi, ça pose des problèmes, parce que ça rejoint une utopie, quelque chose comme ça.
Le terme générosité ou altruisme ?
ce qui m'intéresse dans le terme de générosité, je ne sais pas si ça vient de Comte, je sais pas. Vous savez que Littré était un fervent admirateur de Comte, jusqu'à ce qu'il y ait la séparation qui est intervenue aux années, dans le courant des années 1850. C'est Littré qui remarque que le terme de généralité, de générosité sont liés. C'est pour ça que le terme de générosité m'intéresse. Mais on peut le remplacer, c'est pas un problème. La question du caractère collectif de sentiment est une vraie difficulté, c'est vrai. Mais il me semble que, de la même manière qu'on parle de peur collective, il ne fait aucun doute que la peur est un sentiment collectif. C'est pas ce climat de générosité, mais c'est au moins ce climat d'une confiance collective qui fait qu'un groupe se sent confiant dans ses possibilités propres. Et c'est cela que Comte, en quelque sorte promouvait. Être patriote, c'est aimer sa patrie. Et aimer sa patrie dans le sens où on confie dans les capacités que nous avons pour nous défendre. Parce qu'on est confiant, on n'a pas peur, par exemple, de donner. C'est le premier élément de réponse. Et un deuxième élément de réponse, effectivement, tout le problème de l'altruisme. Puisqu'effectivement, la question de la générosité est liée à la question de l'altruisme. Il y a chez Comte une naturalisation des sentiments. C'est-à-dire, le sentiment se rapporte à notre structure biologique, à notre structure cérébrale. Du point de vue des sentiments généreux, sympathiques, ils disent, les Britanniques, lorsqu'ils ont traduit le terme de générosité, ils préféraient celui des sympathies, qui avait des connotations beaucoup plus savantes, médicales. Et Comte nous dit, le sentiment généreux, il se développe progressivement. On commence par se sentir membre d'une famille. Ensuite, on commence par se sentir membre d'une cité ou d'une patrie. Et à la fin, on a tendance naturellement à se sentir membre de quelque chose de plus vaste qui est l'humanité. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que de se poser la question du sentiment intermédiaire, le sentiment de patriotisme, à savoir, comment faut-il aimer sa patrie pour pouvoir aimer l'humanité? Et il me semble que Comte pose vraiment la question. On ne peut pas aimer n'importe comment sa patrie si on veut aimer l'humanité. Et ça, c'est très intéressant parce que, je reviens à la phrase que j'ai citée, l'esprit est le ministre du cœur. Et si vous revenez aux devises, c'est l'amour pour principe. La spontanéité dont j'ai parlé, c'est un terme qui est revenu plusieurs fois, c'est une spontanéité du fait que pour Comte, il y a quelque chose qui vient de nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes, c'est d'abord les affections. On ne peut pas s'efforcer à aimer. On ne peut pas. Et cette spontanéité ne concerne pas seulement les sentiments liés à la survie, mais il concerne le sentiment altruiste. Malheureusement, je n'ai pas d'exemple précis où il soit question de sentiments collectifs. Mais je pense que de la même manière qu'il y a des peurs collectives qui jouent pour la mise en place de certaines politiques, je pense qu'on peut parler, peut-être pas forcément de générosité, mais ces sentiments d'une confiance en soi qui n'est pas renfermée sur soi. Et il me semble que c'est assez fidèle à l'esprit de Comte.
Il faut faire la jonction avec la religion d'humanité.
Exactement, oui.
Cultiver l'altruisme, collectivement.
Avec Emmanuel, on a mis en place une traduction d'un texte de Richard Congreve qui s'appelle L'Occident. Et à la fin de ce texte, il se dit que lorsque notre pays se rend utile à l'égard de la collectivité des peuples, eh bien on en tire une fierté tellement grande que cela permettrait de satisfaire les égoïsmes les plus coriaces. Comte, même s'il est, si en quelque sorte, un tenant de l'altruisme, il n'est pas dans la négation de l'égoïsme. L'égoïsme est la base, on part de là.
Il dit même que c'est ce qui a le plus d'énergie. Est-ce que tu reprenais Simone Veil, la philosophe, putain.
Donc, il ne s'agit pas de nier l'égoïsme. Il y a un égoïsme, mais toute la question est de savoir comment faire pour que cette fierté occidentale puisse être mise au service de l'humanité. Et donc, il y a tout un système de ménagement qu'il essaye de mettre en place. Et les disciples anglais avaient très bien senti ça. Il faut satisfaire l'orgueil national, il faut lui donner quelque chose. Et justement, Alain disait, c'est comme si on faisait une transfusion de sang, il faut que toute cette vitalité qui est dans l'égoïsme, on essaye de l'injecter dans l'altruisme. Donc c'est la question qui se pose, comment faire pour que cet égoïsme national, le terme est chez Comte, hein, cet égoïsme national soit l'aliment d'un altruisme universel.
C'est ça, cette morale, qui n'est pas une morale moralisatrice ou moralisante, autour du péché et de la culpabilité qui l'évacue. Science alchimique,
la septième science,
transmutation de la boue en or.
Cette brochure des positivistes brésiliens, c'est qui date des années 60, c'est extrêmement frappant parce que, d'une part, cet auteur dit le communisme, finalement, c'est les fautes de l'Occident qui l'ont provoqué, qui, quelque sorte, le maintiennent en vie. Et, de toute façon, il va finir par s'effondrer de lui-même et cet empire va se morceler. Dans mes archives, une lettre envoyée par les positivistes brésiliens à Gorbatchev, en russe, dans laquelle, justement, il lui ressortait ce discours et ses produits.
Là, ce que tu dis, c'est très intéressant. On s'adresse à l'autre dans sa langue. Il y a un texte, si vous allez à la maison d'Auguste Comte, vous allez le voir, c'est un appel cordial au peuple chinois. Et dans cet appel cordial au peuple chinois, eh bien, il y a des caractères chinois. Ils essayent, tant bien que mal, donc c'est une lettre qui doit dater des années 1920, quelque chose comme ça. Cette idée qu'on doit s'adresser à l'autre en sa propre langue. La première chose, c'est s'adapter à l'autre. Et il me semble qu'il y a là une des tendances de ce qu'on peut appeler l'anticolonialisme de Comte. Comte était quelqu'un qui disait, nous on est français, on a la chance d'avoir une frontière avec l'Italie, d'avoir une frontière avec l'Allemagne, d'avoir une frontière avec l'Angleterre, d'avoir une frontière avec l'Espagne. On a cette chance-là. Ça nous impose aussi le devoir d'être polyglotte. Et donc de pouvoir parler italien, de pouvoir parler. Une situation de fait est liée à certaines missions. C'est-à-dire, si on est en situation en quelque sorte de carrefour, eh bien, cela impose le devoir de devenir vraiment ce carrefour et donc d'être un carrefour linguistique. Et d'ailleurs, une petite remarque, Comte est quelqu'un, maintenant que je vois cette belle bibliothèque, est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la bibliothèque.
C'était notre premier exposé.
Et la bibliothèque de Comte est une bibliothèque polyglotte. Ça n'exclut pas les traductions, bien sûr, mais si vous voulez lire surtout la poésie, il faut la lire en VO. C'est très intéressant, puisque c'est une façon de faire place à l'autre en soi. La même chose qu'il proposait pour les Occidentaux, les disciples brésiliens, ils l'ont essayé de le mettre en place pour les Chinois, ils l'ont essayé de le mettre en place dans le cas de la Russie. Ils ont même essayé de le mettre en place dans le cas du Brésil, puisque je n'en ai pas parlé. Mais il y a aussi le phénomène des colonisations intérieures. Au Brésil, il y a des élites blanches qui sont allées chasser les indigènes en leur disant « Vous, vous êtes des barbares, vous n'avez rien à nous apprendre, vous allez prendre en revanche notre culture. » Et un des fers de lance de la protection des indigènes, ça a été des disciples positivistes de Comte. Donc ce qui se passe dans les sphères de relations internationales peut se passer très bien à la sphère de l'intérieur d'un pays. Ce n'est pas exactement le sujet, mais c'est une autre modalité du rapport d'oppression.
C'est aussi lié au pacifisme.
C'est aussi lié à un pacifisme tout relatif, parce que comme tu vois, il acceptait le minimum de défense, alors que les positifs brésiliens étaient bien plus radicaux, puisqu'ils disaient « mieux vaut périr que tuer ».
Assez par hasard, j'ai fait la connaissance d'un professeur musulman qui s'appelle Sadek Selam. Et lui, il a travaillé sur ce qu'ont fait les disciples de Comte pour que l'islam trouve sa place en France. Et apparemment, il y a énormément de textes qui ont été écrits pour donner une vision beaucoup plus positive de l'islam.
Mes connaissances s'arrêtaient à ce qu'on avait dit à El Del Canar. Il cite un passage où il dit que la mosquée de Paris, lorsqu'elle a été construite, une levée des fonds a été mise en place par les disciples positivistes. Si je parle de ce docteur, c'est parce qu'il a fait toute une thèse sur le rôle du positivisme en Turquie, chez les jeunes Turcs. Il y a tout un versant du positivisme qui consiste justement à montrer qu'il est capable de s'adapter à la diversité, ce qu'on appellerait aujourd'hui diversité culturelle.
Alors je ne sais plus à quelle date il le fait. Mais il y a un moment où, après avoir prévu que la capitale de l'Occident, c'est Paris, il me dit, non, ça sera Constantinople. C'est un peu tardif quand même qu'il dit ça.
C'est dans les textes de fin de carrière, c'est dans une lettre, et c'est justement de cette lettre-là qu'il y a « l'Occident doit s'effacer devant la Terre ». Lorsque l'Occident va s'effacer devant la Terre, la capitale doit changer. Ça ne peut pas rester la même capitale. Il faut que ce soit quelque chose qui rassemble beaucoup plus. Donc la capitale ne sera plus Paris, la capitale sera Constantinople. Il y a cette idée qu'une fois la mission accomplie, il faut céder le relais. Et cette idée de la cession du relais me semble très forte aussi. Cela suppose l'idée d'une cession non destructrice. Un des arguments, c'est qu'il ne peut y avoir des cessions que destructrices. Et d'ailleurs, le terme est très intéressant puisqu'il dit Constantinople que l'islam garde en réserve pour l'humanité.
Enfin, il me semble qu'il envisage aussi que l'islam devienne positiviste. Donc la religion de l'humanité.
Mais si l'âme devient positiviste, c'est parce qu'il y a des germes de positivité en lui. C'est ça qui est intéressant.
C'est un accouchement sans douleur.
Tu vois, Paris ne saurait garder la prééminence occidentale, universelle, comme centre de la République occidentale, tant que cette avant-garde prévaudra sur le reste de notre espèce. Mais quand l'homogénéité positiviste sera suffisamment complète, l'Occident s'effacera devant la Terre, et Paris ne remplira plus les diverses conditions essentielles d'un vrai centre universel. Alors la capitale définitive sera sans doute, pour toute la durée de l'espèce, Constantinople.
Ah, sans doute. C'est compte, c'est intéressant qu'il ait connu un doute.
Que l'islamisme garde en dépôt pour unir l'Orient et l'Occident.
Quelle année ?
1856. Lettre du 7 décembre.
Un an avant sa mort.
Oui, oui. Un an avant sa mort, il y a encore des idées qui émergent. Alors qu'on nous présente un Comte qui est cristallisé, qui reste complètement figé.
Est-ce que Comte aborde, du point de vue des sciences et de l'évolution des sciences, le fait que les Arabes, qui ont été des très grands scientifiques Moyen-Âge par là, que ce soit terminé finalement, pratiquement, alors que la science s'est développée en Occident?
Il a quelques hypothèses. Alors, il y a deux choses. Il y a des passages où il se dit, ce qui a fait en Occident notre spécificité, c'est la séparation des pouvoirs entre spirituel et temporel. Et justement, les modernes ne reconnaissent pas assez cette dette, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait un spirituel indépendant du temporel, et qui donc ne lui doivent pas se plier aux convenances du temporel. Et donc, son hypothèse est celle-là. L'islam, oui. C'est un régime très solide, très simple, puisqu'il y a une confusion, il n'y a pas de... Mais cela a pour prix, effectivement, une lenteur qui vient du fait qu'il n'y a pas cette séparation, puisque un des facteurs de développement, pour compte, c'est justement la possibilité de se spécialiser. Et donc, lorsqu'on a une branche, en quelque sorte, qui se spécialise dans des réflexions théoriques, et qui peut avoir une réflexion théorique indépendante, eh bien, cela se prête à une élaboration scientifique. Et c'est très nuancé, parce qu'il se dit, la confusion est très intéressante au début, mais lorsque le pouvoir est confirmé et les gens en place, eh bien, cette confusion devient un obstacle pour le développement. Mais cela, c'est quelques passages du cours de philosophie positive où il essaye d'envisager, de comparer le développement occidental basé sur la séparation de pouvoir avec le développement qui est fondé sur la confusion. Avec cette remarque assez curieuse, c'est que, sauf en Occident, en quelque sorte, on ne retrouve pas cette division aussi nette.